VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue dans le monde aujourd'hui de ce mardi 15 août 2023. Il est 19h30 en temps universel, même heure à Conakry en Guinée. Nanit Talani pour vous présenter cette édition au sommaire ce soir. Crise au Niger, réunion des chefs militaires ouest-africains demain jeudi et vendredi à Accra au Ghana. Au Togo, les évêques appellent à la levée de sanctions imposées par la CEDEAO au Niger.
Les évêques du Togo affirment leur solidarité avec le peuple du Niger et en appellent à la conscience et au sens de responsabilité des décideurs politiques.
Ici aux États-Unis, la justice de l'État de Géorgie a inculpé l'ex-président Donald Trump et 18 autres personnes pour leur tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020. N'oubliez pas, dans environ 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec l'économie et les nouvelles sportives. Mais tout d'abord, le journal. Le chef du gouvernement issu du coup d'État au Niger, Ali Mamane Lamine Zène, est en visite au Tchad, où il a été reçu par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Le chef du gouvernement tchadien, Salé Kebzabo, a accueilli M. Ali Mamane Lamine Zène en visite de travail au Tchad. Il a été reçu par le président Mahamat Idriss Déby, à qui il a remis un message du président du CNSP à préciser la direction générale de la presse présidentielle. Une réunion militaire ouest-africaine devant évoquer une possible intervention armée au Niger pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé aura lieu demain jeudi et vendredi au Ghana. La Russie et le Mali appellent à une résolution pacifique de la crise. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
Cette réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO se tient une semaine après la décision de l'organisation d'activer la force en attente pour établir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum. Les militaires nigériens accusent le président Alassane Ouattara de faire l'apologie de l'action armée contre leur pays. Le président ivoirien a déclaré que les chefs d'État sont d'accord pour qu'une opération militaire démarre dans les plus brefs délais, s'engageant à fournir un bataillon. Colonel-major Amadou Abdraman, membre du CNSP.
Le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même déniée de fondement légal et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation.
Ce mardi, au cours d'un entretien téléphonique, le président russe Vladimir Poutine et son homologue malien Assimi Goïta ont suggéré la résolution de la situation au Niger uniquement par des moyens pacifiques, politico-diplomatiques. La Cour d'appel de Niamey a annulé la condamnation à 9 mois de prison d'Abdoulaye Seydou, dirigeant du M26, écroué depuis 7 mois pour une affaire liée à une attaque djihadiste. Le M26 est une coalition d'associations et d'ONG opposées à la présence des forces françaises au Niger. L'Alliance Sahel, plateforme coordonnant l'aide à la région, se dit préoccupée par les implications du coup d'État sur les populations les plus vulnérables et les informations relatives à la restriction croissante des droits de l'homme.
Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a assuré qu'il est encore possible de mettre fin au coup d'État au Niger par la diplomatie. Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie, a-t-il déclaré à la presse. Les évêques togolais appellent à la levée de sanctions imposées par la CEDEAO au Niger et demandent aux protagonistes d'aller vers une table de négociation. Le point avec notre correspondant à Lomé, Kossi Wousou.
Les évêques du Togo affirment leur solidarité avec le peuple du Niger et en appellent à la conscience et au sens de responsabilité des décideurs politiques à privilégier coûte que coûte la voie diplomatique de négociation dans la recherche de solutions à la crise qui prévaut au Niger. Selon le communiqué rendu public, les évêques du Togo ont salué la courageuse, sage et prudente position des dirigeants de beaucoup de pays, dont le Togo, qui privilégie la voie du dialogue dans le discernement et la responsabilité devant l'histoire. Dans la même veine, la députée togolaise Ibrahima Memunatu, siégeant au Parlement de la CEDEAO, a dénoncé l'option militaire prise par la CEDEAO pour le règlement de la crise au Niger. On ne saurait éteindre le feu par le feu, dit-elle. En tant que femme, en tant que représentante du peuple, je ne saurais cautionner une option de guerre dans un pays frère qu'est le Niger, a martelé la députée Kossi Wusu Lomé pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la radio Omega a saisi le Conseil d'État pour contester sa suspension annoncée par le gouvernement après l'interview d'un opposant au régime militaire au Niger. Au regard des textes, le gouvernement n'a pas le droit de suspendre une radio. Cette prérogative relève du Conseil supérieur de la communication, selon le groupe Omega. Il estime que les autorités ont juste saisi l'occasion de cette interview pour faire taire leur radio, dont le professionnalisme et la liberté de ton semblent dérangés. Amnesty International appelle à la libération de 3 personnalités opposées à l'ouverture de la gestion des ports tanzaniens au géant émirati DP World. Cet accord, ratifié en juin par le Parlement, vise, selon le gouvernement tanzanien, à améliorer la productivité des 80 ports du pays. Ses détracteurs dénoncent un abandon de souveraineté aux dirigeants de Dubaï, selon Frinaman Mboué, président du Chadima, le principal parti d'opposition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump annonce qu'il présentera lundi prochain, lors d'une conférence de presse à Bedminster, dans le New Jersey, un dossier qui, d'après lui, va l'innocenter ainsi que d'autres personnes inculpées hier soir par la justice de l'État de Géorgie pour des tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Le point avec Jacques Aristide.
Dans un nouveau message publié aujourd'hui sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump qualifie le document qu'il compte rendre public dans quelques jours de volumineux, complexe, détaillé, mais irréfutable sur des fraudes électorales qui ont eu lieu en Géorgie. Sur la base de ce rapport, toutes les charges devraient être abandonnées contre moi et les autres, ajoute l'ancien président américain. Hier soir, Fannie Willis, la procureure du comté de Fulton, a inculpé Donald Trump et 18 autres prévenus en vertu d'une loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée utilisée contre les gangs et prévoyant des peines de 5 à 20 ans de prison. Elle leur a donné jusqu'au 25 août pour se livrer volontairement à la justice de l'État. La procureure a indiqué vouloir juger les prévenus lors d'un même procès dans les 6 mois, mais rappelé que la date sera fixée par le juge. La chasse aux sorcières continue, a réagi Donald Trump dans un premier message posté la nuit dernière. Il s'agit de la 4e inculpation en moins de 6 mois de Donald Trump en campagne pour la primaire républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024.
En Afghanistan, le gouvernement taliban a fêté ce mardi le 2e anniversaire de son retour au pouvoir. Les opposants dénoncent un retour en arrière. Claire Morin-Gibour.
En ce jour férié, les rues de Kaboul se sont remplies des partisans des talibans, parfois au volant de véhicules militaires. Plusieurs centaines d'hommes se sont rassemblés en face de l'ancienne ambassade américaine en brandissant des drapeaux blancs et noirs de l'Émirat islamique d'Afghanistan, le nom donné au pays par ses nouveaux dirigeants. Le gouvernement taliban a salué cet anniversaire en déclarant que la conquête de Kaboul était la preuve que personne ne peut contrôler leur nation et qu'aucun envahisseur ne sera autorisé à menacer l'indépendance et la liberté du pays. Au cours des 2 années écoulées, les autorités talibanes ont imposé l'application stricte de la charia ou loi islamique et multiplié les mesures à l'encontre des droits des femmes exclues de la vie publique, ainsi que des voies d'accès à l'emploi et à l'éducation. Les manifestations de femmes sont sévèrement réprimées, mais à l'approche de cet anniversaire, des petits groupes de femmes ont organisé de rares manifestations contre le régime des talibans, mais en se masquant les visages.
L'Ukraine a été visée une fois encore de nuit par des bombardements russes, faisant au moins 3 morts, ont indiqué ce mardi les autorités qui précisent que les frappes ont visé plusieurs régions et grandes villes de l'Ouest. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a estimé que les ressources de l'armée ukrainienne sont quasiment épuisées et que Kiev n'obtenait pas de résultats malgré le soutien total de l'Occident. Les autorités chypriotes annoncent avoir secouru 60 migrants lorsque leur bateau s'est retrouvé en difficulté près de la côte sud-est de l'île méditerranéenne. Aucun détail n'a été fourni sur la nationalité des personnes secourues. Voilà pour le journal. À présent, la Minute Éco avec Rosine Mounezero.
Le Gabon a restructuré une petite partie de sa dette, environ 3%, en contrepartie de 163 millions de dollars d'investissement dans la préservation de ses océans, ont annoncé mardi le ministre des Eaux et Forêts et l'ONG américaine de Natural Conservancy. Cette transaction dette nature marque le début d'un projet de préservation de 15 ans pour le Gabon, s'est félicité dans un communiqué l'ONG. Au Cameroun, MTN a réalisé un chiffre d'affaires de 156 milliards de francs CFA au premier semestre 2023, selon Investir au Cameroun. Ce chiffre est en hausse de 9,2% par rapport à la même période en 2022. Cette performance intervient dans un contexte marqué par l'inflation à près de 8% en mai 2023. Aux États-Unis, la bonne santé de la consommation a été une surprise avec une hausse des ventes au détail en juillet de 0,7% contre 0,4% prévu sur le mois et de 3,2% sur un an. Le bond des ventes au détail suggère que le resserrement de la politique monétaire a encore peu d'impact sur l'activité économique réelle, a souligné l'analyste Andrew Hunter de Capital Economics.
À présent, la page sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. L'Espagne s'offre une première finale en écartant la Suède au Mondial féminin.
La force offensive de la Roja a eu raison de la co-meilleure défense du tournoi, surprise par la tournure des événements sous la pluie néo-zélandaise qui a douché leurs espoirs. La Roja féminine s'est imposée face à la Suède 2-1 à Auckland. Cette première demi-finale à rebondissement a basculé sur un but à la 90e minute d'Olga Carmona. D'une frappe surpuissante, la défenseur espagnole a assommé les Suédoises qui avaient pourtant égalisé quelques secondes plus tôt. Le dénouement cruel se répète pour la Suède qui perd une troisième demi-finale de mondial consécutive après 2011 et 2019, sans compter la demi-finale perdue l'an dernier à l'Euro. L'Espagne, qui disputait sa première demi-finale de Coupe du Monde féminine, reste en lice pour un titre. En finale ce dimanche 20 août, les Espagnols vont affronter les Australiennes ou les Anglaises qui jouent demain dans la deuxième demi-finale.
En Angleterre, Yacouba, Kevin De Bruyne risque 3 à 4 mois d'absence.
Le milieu et capitaine de Manchester City, Kevin De Bruyne, de nouveau blessé à une cuisse, pourrait manquer entre 3 et 4 mois de compétition s'il devait être opéré, une décision pas encore prise selon son entraîneur Pep Guardiola. C'est une blessure sérieuse, a dit le technicien espagnol à la veille de la Supercoupe d'Europe disputée par les champions d'Europe en titre demain contre le FC Séville à Athènes. Le joueur de 32 ans a été contraint de sortir en milieu de première période vendredi pour le match de reprise du championnat contre Burnley. Blessé à la cuisse droite, son entraîneur avait évoqué une rechute 2 mois après une blessure similaire en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan.
Pour terminer, Yacouba, basketball. Ici en NBA, James Harden ne veut plus jouer sous la direction de l'actuel président des 76ers.
James Harden soutient qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia Sixers tant que Daryl Morey, qui l'a qualifié de menteur lors d'une tournée promotionnelle en Chine, restait président de la franchise. Les Sixers et l'ancien MVP en NBA sont dans une impasse contractuelle. Le joueur de 33 ans a rejoint Philadelphie en février 2022. En provenance de Brooklyn, selon la presse américaine, les Sixers ont mis un terme aux discussions avec la star de la NBA au sujet d'un éventuel transfert et s'attendent à ce qu'il se présente à la reprise de l'entraînement en septembre. Mais le joueur n'aurait pas l'intention de s'y rendre, d'après The Athletic. L'équipe amenée par Joel Embiid a été éliminée en demi-finale de conférence Est lors des deux dernières saisons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Maintenant, passons à notre page magazine. Ici, aux États-Unis, la justice de l'État de Géorgie a inculpé hier soir l'ex-président Donald Trump et 18 autres personnes pour leur tentative d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. Il s'agit de la quatrième inculpation en moins de 6 mois pour Donald Trump en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024. Alexandrine Ologno a recueilli la réaction du professeur Emilio Viano de l'American University à Washington, D.C.
C'est une accusation beaucoup plus lourde, plus sérieuse, parce qu'en réalité, on utilise le langage pour le crime organisé. Et c'est une conspiration au niveau de la mafia pour violer la loi et pour empêcher que l'État puisse fonctionner comme il doit.
Le fait que cette inculpation, cette affaire soit au niveau de l'État de Géorgie, a-t-elle une certaine particularité?
La particularité, c'est que la Géorgie, c'est un État clé dans le sud du pays. Elle a été remportée par Joe Biden, mais très peu de votes. Ils en viennent, on a eu beaucoup de luttes pour contrôler les votes dans cet État, dans le sud des États-Unis. C'est une matière très importante pour les futures élections ici dans le pays. Le fait, c'est qu'il y a eu un coup de téléphone exprès de Trump au secrétaire d'État pour demander qu'on lui trouve 11 000 et plus de votes pour vaincre l'État. Et c'est ça qui a causé cette investigation dans la Géorgie pour l'interférence de Trump pour changer les résultats d'une façon très explicite.
Alors, je rappelle qu'il s'agit de la quatrième inculpation pénale en moins de 6 mois pour l'ancien président Donald Trump. Et à chaque inculpation, Donald Trump lève des sommes et grimpe dans les sondages. On a l'impression finalement que ces déboires judiciaires semblent lui faire plus de bien que de mal.
Dans un certain point de vue, c'est quelque chose de positif pour lui. Parce qu'en peine, c'est toujours de parler de lui au niveau national. Il lui permet de se présenter devant ceux qui le soutiennent comme une victime de l'application de la loi contre lui, mais il dit ce n'est pas contre moi, c'est contre vous, mes électeurs. C'est pour ça que vous devez intervenir, me protéger et même aussi envoyer d'argent parce que j'ai besoin de fonds pour ma défense. À court place, c'est positif pour lui. Mais clairement, si ça continue, ça ferait beaucoup, beaucoup de dommages à sa candidature.
Professeur Emilio Viano de l'American University à Washington, D.C.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Au Togo, des élections législatives et régionales sont annoncées pour la fin de l'année. Après le recensement, la Commission électorale nationale indépendante tarde à annoncer la date des élections. Les partis de l'opposition s'inquiètent de ce silence. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
En décembre prochain, le mandat des députés à l'Assemblée nationale du Togo prendra fin. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, parti de l'opposition extra-parlementaire, ne comprend pas le mutisme de la Commission électorale nationale indépendante sur la date des élections malgré les multiples rappels du parti. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC.
Mais nous demandons la publication rapide d'un programme. Quand vous voulez vous organiser, vous allez participer à une compétition, vous devez savoir quelles sont les étapes. Vous devez vous organiser en conséquence. La loi demande que le chronogramme soit mis à la disposition des partis politiques. Donc, il faut respecter la loi.
Pour Vincent Kodjo à Meganvi, député du parti Nouvel Engagement du Togo Net, la CENI et le gouvernement doivent poursuivre le processus normal devant aboutir aux élections.
Le chronogramme qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça s'arrêtait au recensement. Maintenant que le recensement est fini, il nous faut un nouveau chronogramme pour aller jusqu'aux élections. Donc, ils nous ont dit qu'ils attendent un accord avec le gouvernement pour faire une proposition au gouvernement. Jusque-là, ça n'a pas encore été fait. Donc, du coup, c'est ça qui nous embête un peu, nous, en tant que parti politique, pour nous organiser d'abord nous-mêmes.
Beliki Akwete, le président de la Convention patriotique panafricaine, ne s'inquiète pas. Il croit comprendre les raisons de cette absence de la mise à disposition du chronogramme par la Commission nationale indépendante.
On ne peut pas être inquiet. De toutes les façons, les élections auront lieu. Dans quel format, on ne sait pas, parce que nous tendons vers des élections couplées avec les élections régionales qui vont se tenir pour la première fois au Togo. Je pense que ces petits problèmes font que le chronogramme n'est pas encore sorti. À la CPP, nous sommes confiants qu'un chronogramme sortira bientôt parce que la CENI ne peut pas continuer à travailler sans un chronogramme.
Calendrier électoral ou pas, l'Union des forces de changement, chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, est prête. Isaac Tchiakwe, du directoire de l'UFC.
Nous nous préparons en conséquence, au moins pour ce qui est du recueil des candidatures, au moins pour ce qui est du programme que nous allons proposer à nos concitoyens pour nous renouveler leur confiance, voire nous accorder davantage leur suffrage dans des circonscriptions. Donc nous nous préparons et nous ne serons pas surpris si le gouvernement décidait dans un avenir proche de fixer la date de ces prochaines échéances.
Contrairement aux législatives de 2018 boycottées par la majorité des partis d'opposition, cette fois-ci, tous ont annoncé leur participation aux élections cette année. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Alexandrine Rolonio avec vous dans Washington Forum cette semaine. Nous nous intéressons à l'efficacité ou non des sanctions dans la résolution des crises en Afrique. La CEDEAO a imposé une série de sanctions au Niger suite au coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Ces sanctions ne semblent pas dissuader les auteurs du coup d'État qui ont affirmé que le Niger est en mesure de les surmonter. Le Mali et le Burkina Faso ont aussi fait face à des sanctions du bloc régional qui n'ont pas fait fléchir les poutistes. Ces sanctions sont-elles efficaces dans les crises en Afrique ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le Burkina Faso a célébré ce week-end la journée internationale de la jeunesse sous le thème du renforcement de l'emploi des jeunes en milieu rural et la lutte contre l'insécurité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La crise sécuritaire joue sérieusement sur l'emploi des jeunes, surtout dans les zones classées rouges. Amadé Kagoné, membre de l'Association pour le développement du Loroum dans le nord du pays.
Pour les jeunes du Loroum, c'est très difficile parce qu'actuellement le Loroum est enclavé, difficile d'accès. Si ce n'est pas par un convoi militaire, on ne peut pas accéder au Loroum. Ou par voie aérienne, les voies aériennes, c'est juste pour envoyer des produits médicaux. Donc le Loroum aujourd'hui est enclavé et inaccessible. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'emploi au Loroum parce que ils vont produire, mais comment l'écouler ? Il n'y a pas d'écoulement. Le Loroum est une province producteur de pommes de terre. Doyon, c'est une province qui pratique silvo agro-pastoral. 99% des villages de Loroum sont tous actuellement vides. La majeure partie des jeunes se sont exilés parce qu'ils sont assis aujourd'hui. Il n'y a pas de terres cultivables. Compte tenu du terrorisme, les terres sont prises par les terroristes.
Djeneba Diallo est responsable d'une association de femmes dans la province du Seno, dans la région du Sahel.
Et actuellement, l'insécurité est venue aggraver la situation. On voit beaucoup de jeunes filles comme les jeunes garçons qui avaient des emplois, qui sont actuellement sans emploi. Et dû à l'insécurité et à d'autres facteurs, par la fermeture, soit des marchés, ou bien des sites aurifères, ou également même la perte même de leur emploi parce qu'ils ont quitté les lieux pour se retrouver dans des zones plus résilientes et se trouvent qu'ils ne peuvent plus mener ses activités dans ces zones.
À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a promis aux jeunes que son gouvernement travaille à faciliter les conditions pour entreprendre.
Il faut que la jeunesse comprenne aussi quelque chose. Nous, au niveau de l'exécutif, nous prenons des mesures. Mais nous avons besoin aussi de vous parler, de vous sensibiliser pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont aujourd'hui posés à nous. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'ils racontent leurs histoires, on se rend compte qu'ils se sont battus d'eux-mêmes pour y arriver. Aujourd'hui, des instructions ont été données pour qu'on puisse créer un fonds unique qui puisse soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat. On ne vous demandera pas peut-être de partir de zéro, mais il y aura un minimum pour vous accompagner et vous aider. Nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau donc des jeunes entreprises qui devront se créer.
Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi rendu un hommage aux jeunes qui se sont engagés comme supplétifs de l'armée et dans une vraie indépendance de l'Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, pour la première fois, le gouvernement fédéral veut s'impliquer dans le recyclage des vieux pneus en matériaux bénéfiques pour la société. Une organisation est lancée dans ce sens pour réduire l'impact de ces produits sur la santé et sur l'environnement. Le reportage de Gilbert Tomba à Abuja.
Dans le quartier de Guarimba, à la périphérie d'Abuja, Saïd Aboubakar Adams et son ami travaillent comme vulganisateurs. Ils reçoivent régulièrement des pneus pour réparation, mais certains des pneus n'y sont plus utilisables.
Certains, nous les jetons et d'autres, nous les gardons pour les gens qui fabriquent des chaussures localement afin qu'ils viennent les ramasser. C'est tout.
Sur les milliards de pneus usagés dans le monde, le Nigeria à lui seul représente plus de 10 millions de déchets qui constituent des problèmes de santé en plus d'être hostiles à l'environnement. Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de l'Agence nationale des normes et réglementations environnementales, NESRIA, s'est associé à l'organisation des producteurs de pneus pour faire face à ces problèmes. Aliou Djuro, directeur général de NESRIA.
Nigeria is committed to reducing its carbon emission.
Le Nigeria s'est engagé à réduire ses émissions de carbone en continuant d'interdire les substances comme les pneus et autres déchets. Nous ne pourrons pas atteindre notre objectif comme promis. Nous devons donc nous abstenir.
Plus de 90% des pneus au Nigeria sont importés, mais finissent leur parcours dans des poubelles ou sur des décharges en plein air et exposés au soleil, posant ainsi un problème à la santé. Pour le fondateur de Luptro, Nguye Williams, la collection des pneus usagés et leur recyclage est une opportunité pour devenir millionnaire en faisant du bien au public et à soi-même.
Les pneus sont des produits que vous pouvez utiliser pour construire nos routes. Nos aires de jeu où nos enfants jouent peuvent être en fait un sol souple pour eux. Les gymnases sont même des produits haut de gamme, mais nous parlons aussi de meubles, nous parlons aussi de tapis, nous parlons même de sacs en plastique, de sacs à déchets, etc.
Le Nigeria est confronté à un sérieux problème de recyclage de pneus usagés, car il génère chaque année de nombreuses tonnes de déchets avec des défis au niveau de la collecte et de leur élimination. Certaines entités privées font leur mieux dans le recyclage comme dans ces centres. Ife de la Paix Rancévé, fondatrice de Free Recycle Limited.
D'abord, c'est une entreprise qui demande de gros investissements. Les machines que vous voyez ici coûtent très cher et c'est pourquoi peu de gens se consacrent au recyclage de pneus usagés. Et il y a aussi plusieurs défis qui rendent la situation plus difficile quand on pense à l'électricité. L'électricité reste toujours un grand problème.
Malgré le potentiel de création de richesses liées à la transformation des déchets chaque année au Nigeria, le recyclage est la solution pour protéger l'environnement et créer des emplois. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Georges Léonard Sagnou qui était à la réalisation et à Bob Bass qui était à la technique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Nanit Talani, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul titre internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, X-Twitter et Instagram. À très bientôt.